RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. On est ensemble sur RMC Story jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Perico Légas, Pierre-Edouard Magnan et Laurent Dandrieux avec vous, bien sûr, pour parler réveillon. Bah oui, on est à un mois du réveillon et on va s'intéresser justement à ce qu'on va manger pour Noël. Un Français sur cinq prêt à manger de la pizza. Est-ce que c'est un sacrilège ou au contraire un symbole de modernité? On vous attend au 32-16 et sur l'application RMC. 14h30, il y aura RMC S'engage pour vous. On va revenir sur le cas de Johan, cet auditeur dont on avait usurpé l'identité et qui avait reçu plusieurs amendes de la SNCF, et bien on a du nouveau dans ce dossier. Et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On a quoi, Rémi?
On parlera notamment de la collecte du jour, rendez vos armes, si si. Et puis on fera le test de culture générale de Miss France, tiens.
Ah oui, j'ai même pas eu tout bon.
Ah ouais, c'est bon. Ouais.
J'ai eu des erreurs.
T'as eu combien?
J'ai eu 32.
On en parle.
Sur 37, la honte.
C'est mieux que rien.
RMC, Estelle Midi.
Et on va s'intéresser aux chiffres du jour dans Estelle Midi. 25% des Français seraient prêts à manger de la pizza lors du réveillon de Noël. Un chiffre qui monte même à 30% chez la jeune génération. Rémi, les dindes et les chapons ont du souci à se faire.
Ouais, c'est ce que nous dit un récent sondage réalisé par l'Institut Opinionway. Tu l'as dit, une personne sur quatre affirme qu'elle pourrait se laisser tenter par une pizza pour le repas de Noël. Et pas n'importe quelle pizza. Hein. Bon, je vous rassure, la pizza à l'ananas n'est pas au programme, puisqu'elle ne remporte que 7% des votes quand même.
Ouais, 7%
des votes. En revanche, d'autres se sont largement démarqués. La 4 fromages à la première place avec 42% de réponses, une version bien française quand même avec la savoyarde, 33%,
savoyarde,
ouais, 33% plébiscité.
C'est une pizza à la raclette
oui, absolument, avec des lardons et des oignons. Et puis la Regina obtient 30% des suffrages. Même si la pizza n'est pas exclue, bon, l'écran classique font quand même de la résistance. D'après une étude CSA réalisée l'an passé pour Noël 2021, 75% des Français prévoyaient de déguster du foie gras pour l'occasion, à l'occasion de Noël, devant le saumon et les huîtres. Côté volaille, les chapons, notamment de pintade, restent plébiscités et le champagne reste évidemment indétrônable. Et inflation ou pas, pas question de sacrifier le repas de Noël derrière les cadeaux. Toujours selon l'Institut CSA, il restera cette année le repas de Noël, le deuxième poste de dépense à 127 euros en moyenne, soit 10 euros de plus que l'an dernier. Alors, 127 euros, évidemment, c'est quand on organise un repas pour la famille,
oui, c'est pas
avec
pour,
les convives, voilà.
Pour quelqu'un tout seul. Quoi.
Exactement. Et que ce soit pizza ou foie gras, sachez que seuls 5% des Français comptent limiter leurs dépenses pour le repas de Noël en 2022, inflation ou pas.
Manger une pizza à Noël, est-ce que c'est un sacrilège ou un symbole de modernité, Laurent Dandrieux?
Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la sobriété. Il faut faire des réveillons avec des chips et des chamallows, voire des nouilles au beurre. Enfin, non, c'est n'importe quoi, en fait. C'est la plus grande fête de l'année. On va fêter ça avec un plat de tous les jours. C'est absurde. Il faut mettre les petits plats dans les grands et sortir un peu de l'exceptionnel. Il faut envoyer du rêve le jour de Noël, pas de la
Mais vous
pizza.
Mangez quoi? Je sens que chez vous, c'est le réveillon, ça doit être...
Non, alors moi, chez moi, c'est un mauvais exemple parce qu'en fait, je suis d'une famille nombreuse et donc on fait des grandes réunions familiales où il y a tous frères et sœurs, neveux et nièces. Et, et du coup, on est très nombreux et du coup, c'est plutôt en mode buffet. Donc, on ne se met pas à table avec des plats.
Vous faites un buffet à Noël?
Ouais, mais un buffet bien.
Quel scandale!
Mais
il
n'y
a pas de pizza, quoi.
Mais on ne va pas se mettre à table à 40, quoi. Donc, du coup, non, il n'y a pas de pizza. Non, c'est plutôt huîtres, rôti de bœuf, foie gras, choses intéressantes. Mais non, mais je pense qu'il faut solenniser un peu le truc, quoi. Là, il y a une banalisation, je trouve, de Noël dans cette idée qui est triste à pleurer. Moi, je suis pour le chapon obligatoire et puis on exclut de réveillon.
Non,
les
pas
gens.
Le chapon,
on exclut de réveillon et puis on les réintègre pas avant 3 ans.
Voilà. Perico Légas, notre spécialiste gastronomique autour de cette table. Vous imaginez pouvoir manger de la pizza à Noël, Perico?
Tout à fait. J'ai scruté l'évangile dans le moindre détail. Il n'y a absolument pas marqué au menu de l'évangile. Jésus est né dans une crèche à Bethléem.
Mais il n'y
avait
pas de pizza,
il n'avait rien.
Il n'y avait pas de repas.
Donc je ne sais pas d'où sortent ces codes alimentaires. Alors, sauf.
Ah, mais j'allais vous demander d'où sortait la dinde.
On a une tradition régionale. Voilà, donc il y a les volailles, l'Alsace, le Sud-Ouest, il y a du foie gras. Chaque territoire doit célébrer le repas de Noël en famille avec ce qu'il y a de meilleur sur place. Si c'est une réunion c'est de convivialité, j'espère bien, c'est taillé à la main à la graisse de bœuf. C'est une réunion de famille, de convivialité, d'amour et de partage. Si cette pizza faite avec de bons ingrédients, je rappelle que lors de la scène, lorsque le Christ partage le pain, l'appareil qu'on appelle la pita aujourd'hui, c'est une pizza. Et l'hostie, c'est quoi ? C'est
Jésus. J'ai pas vu les choses comme ça.
L'hostie de la communion, c'est une petite pizza. C'est le même appareil, c'est de l'eau. C'est de l'eau et de la farine sans levain. Voilà. Et la pizza, c'est le pain de la Méditerranée. Autour de toute la Méditerranée, chacun donne un nom différent. Oui. Et chez les Juifs, c'est la pita, mais et vous avez dans la cuisine libanaise également, quand vous mettez le houmous. Et la pizza, ce n'est que cette farine et cette eau sans levain, dans lequel les pêcheurs napolitains ont mis un peu de tomate, un anchois. Donc, si on fait une pizza, alors on peut la faire, je ne suis pas trop pour les revisitations. Si on met un peu de foie gras. Voilà.
Pizza ou foie gras ?
Mais
c'est immonde.
Alors j'en ai goûté. Si c'est bien fait, Estelle.
C'est bien fait.
Alors moi je préfère une vraie pizza italienne. En tout cas, intellectuellement, culturellement, philosophiquement et confessionnellement, ça ne me choque pas qu'au nom de Noël, une famille qui veut célébrer cette fête avec une pizza le fasse. Moi, je resterai sur d'autres paramètres. Voilà. La pizza, quand elle est bien faite, mais ça, je vais vous dire plus loin, ça serait un bon kebab. Je fais Noël autour d'un grand kebab avec de la vraie viande, du bon pain, des bons légumes. Voilà. Tout ce qui compte, c'est l'origine de l'ingrédient, la qualité culinaire, comment ça a été préparé.
Vous mangez quoi au réveillon, vous ?
Cette année, je vais faire. Vous savez, au réveillon, je ne fais plus la cuisine parce que quand je fais la cuisine, je ne m'occupe pas de mes invités. Ouais. Donc, je ne fais que des produits, entre guillemets, froids, un très bon saumon fumé, des huîtres, et la viande est remplacée par une tranche de foie gras. Je vais essayer d'en trouver cette année parce qu'il n'y en a plus. Mais je reste sur du très conventionnel, de très belle qualité, et j'initie mes enfants à faire, entre sobrement, c'est peut-être beaucoup, mais alors le grand plat, la dinde, il y a toujours un qui sacrifie. Non mais un chapon
mais
de Bresse,
non, trop.
C'est délicieux. Ou alors on le fait la veille, enfin, il y a toujours des solutions. Maintenant, je vais vous dire, j'essaie de me faire inviter à Noël par ma belle-mère, chose comme ça je m'occupe de rien.
Ah oui, d'accord. Ah.
Je livre les produits la veille, mais comme ça, je me mets les pieds sous la table.
Ça, c'est
l'important, c'est d'être tranquille quand même. Vous êtes d'accord ?
N'importe quoi, Noël, c'est tranquille, j'aime beaucoup.
Du coup, la belle-mère n'est pas tranquille.
Est-ce que vous imaginez manger une pizza à Noël ou de la raclette, Pierre-Édouard Magnan ?
Alors, pour un repas de famille, je sais pas. Alors, moi, non, ce sera pas raclette ou pizza. Alors, moi, j'ai la chance de me faire inviter le 24 chez mes beaux-parents et puis chez mes parents pour Noël. Donc, je ne sais pas ce que je vais manger à Noël. Je doute que mes parents ou mes beaux-parents fassent de la pizza pour leur pain de Noël. Je leur suggère peut-être l'idée pour être disruptif, comme on dit aujourd'hui. J'en doute. Après, j'ai envie de dire, d'abord, chacun fait bien ce qu'il veut. L'essentiel, c'est de se faire plaisir.
Oui, mais
si les
même.
Gens... Non, mais si, alors... Honnêtement, avant qu'on fasse ce sujet, ça ne me serait pas venu à l'idée.
Bah, donc, vous voyez.
Effectivement, non, mais le réflexe, parce que ce n'est pas le réflexe. Après, typiquement, le 25, je dirais le 24 au soir, le 25 midi, on a fait Noël. Avec un peu de chance, le 25, on va laisser notre fille peut-être chez mes parents, se prendre une petite semaine tranquille avec ma femme. Bon, le 25 au soir, on n'aura pas faim, c'est un mauvais exemple.
Ça, c'est sûr.
Mais le 26 midi, une petite raclette, ce n'est pas exclu.
Et ça n'a rien à voir le 26, ce n'est pas Noël.
Et oui, mais on est dans la période des fêtes. Mes parents, il m'arrive de faire Noël le 23 ou le 27, parce qu'en plus, moi, famille recomposée, mes parents. Pareil, donc des fois, on a fait Noël, moi, j'ai même que des gens on fait Noël à Pâques, mais bon, là, c'est autre chose. Mais
oui, autre chose.
En tout cas, on peut faire Noël en décalé. Il y a en plus, c'est une période de fête. Là aussi, en plus, on mange énormément. Il y a un moment où d'ailleurs, il y a un moment où il faut faire attention parce qu'on finit par manger beaucoup, y compris parce qu'on veut faire plaisir. Parce que tous ceux qui font des repas veulent tous vous surnourrir. Il faut que ce soit un repas. Parce que
c'est
dans
ça.
L'idée de plaisir Noël, il y a aussi un peu l'idée d'excès.
Oui,
en tout cas, de trop d'abondance. Merci, je cherche.
Alors, c'est la fin de l'abondance, vous savez.
Alors, cela dit, vu celui qui me le dit, ça va plutôt m'encourager à continuer d'abonder. Mais ça, c'est mon côté désagréable qui ressort. Donc, voilà, et je répète, si ça fait plaisir à une famille de faire Noël avec des pizzas d'abord. On imagine qu'ils ne mangeront pas que de la pizza. La pizza sera un des plats
parmi
d'autres.
C'est le symbole d'autre chose.
On est quand même d'accord que se faire plaisir...
Mais c'est un symbole de fête, de joie, de
mais
partage.
Mais non, c'est le symbole que tout part à volo, excusez-moi.
Tous les jours, c'est quand même triste. Quoi.
Tout part en train.
Ça prouve un manque d'imagination. Oui,
et ça prouve aussi...
La dinde, c'est pas très imaginatif.
Attendez.
On se rassemble quand même autour de traditions. Et aujourd'hui, si votre tradition à Noël... Bien sûr, j'entends bien que le foie gras, ça coûte cher, le saumon, ça coûte cher, etc.
En plus.
Mais moi, je suis désolée, manger du foie gras, manger de la pizza à Noël, je me dis, il y a quand même des traditions qui se perdent. Et c'est
Estelle,
quand même dommage.
Je me bats depuis très longtemps dans le métier que j'exerce en disant, au lieu d'acheter un foie gras industriel dégueulasse, produit dans des conditions absolument innommables, allez chez votre charcutier traiteur du quartier, une terrine, maison formidable, au lieu du saumon fumé qui coûte cher, une truite française élevée dans les Pyrénées, voilà, et au lieu du caviar, des œufs de truite qui ne coûtent pas très cher, voilà. Mais Estelle, ça serait un couscous sublime. Noël autour du couscous. Oh, oui.
Mais
oui,
mais
ça serait une paella. Ça serait une paella.
Mais c'est un vrai plat.
Alors là, je m'inscris en faux. La pizza est grands plats de l'histoire de la cuisine mondiale. Quand il est originel, quand il est fait à Naples avec des produits locaux, Je l'ai goûté à Naples dans une. C'est
mais
sublime.
Mais le couscous peut être un repas de fête. Vous êtes d'accord?
La pizza,
non, mais...
pizza aussi.
Mais non, c'est pas forcément. Mais vous allez en Italie, vous faites du carton. Vous allez en Italie, vous croyez qu'ils mangent de la pizza pour quand ils font la fête, quand c'est un repas de fête? Bah
bien,
pas du tout.
Mais bien sûr que oui.
Bien sûr que
il y a des fêtes, il y a des pizzas.
Je vais regarder
de fête.
Tout de suite le repas.
Il y a des
de
pizzas de fête. Oui, non, non. Vous avez des pizzas d'apparat, vous avez des pizzas traditionnelles.
Pizzas d'apparat.
Vous avez des pizzas de luxe.
Et sur le temps, personne ne va manger qu'une pizza.
Pas de racine.
D'autres choses, ça peut être autre
chose. Avec des olives en robe.
Regardez, repas traditionnel italien.
Pas de racisme alimentaire.
Je
vous en supplie.
Vous voulez, Perico, qu'il n'y a pas de pizza dans le repas traditionnel.
Chez les barrés à Noël, je peux vous dire que c'est la meilleure moule frite du monde.
Mais n'importe quoi. Non, mais le
soyons tolérants et fraternels.
Mais attendez, Noël, après, c'est aussi un moment où on passe du temps en cuisine. C'est un moment où on prépare quelque chose, on essaie de faire une belle table, on essaie de faire plaisir aux autres, etc. Ce que je veux dire,
vous
c'est que
le
couscous, combien de temps vous mettez pour faire un couscous? C'est énorme.
La pizza, le temps de faire la pâte soi-même, tout préparé.
Les gens, ils vont faire la pâte, ils vont commander
chez Domino's. C'est ça que je dis. Vous vous disiez se faire livrer une pizza.
Mais c'est ça.
Alors, ça, c'est des gens qui n'y connaissent rien, qui se foutent du repas Noël, qui ont envie d'expédier. Mais ça, je dénonce. Je vous prends au mot. Est-ce qu'une pizza peut représenter Noël? Oui, si
est-ce
elle est faite dans les règles.
Que 30% des jeunes, ils vont aller faire leurs pâtes eux-mêmes.
Les Italiens se réunissent autour de 7 plats de poisson et crustacés.
Et ben voilà.
Voilà. Et
ben,
et dans, moi, j'ai des. Dans le nord de l'Italie, on déguste souvent un plat de lasagne avant de continuer par un rôti de lapin ou de veau accompagné de pommes de terre pour le dessert. Le panettone, évidemment, originaire de Milan.
Et puis le panettone en dessert, c'est...
Dans le sud, on adore les spaghettis à la vongole, des pâtes longues cuisinées avec des coques ou des palourdes avant de continuer sur des calamars frits. Je ne vois pas de traces de pizza.
Bah évidemment, il n'y en a pas. Quand vous voulez parler gastronomie, appelez-moi, hein, Perico, je vais vous aider.
Je vous disais que nous pouvions instituer, vous et moi, une grande pizza, comme plein de... Je n'ai pas dit que c'était régulé, mais en Italie, vous avez des gens qui, le jour de Noël, en l'entrée...
C'est l'apéritif. Il va nous parler du copain de son voisin.
Ils le mettent en apéritif avant le grand plat.
C'est les petits fours.
Les mamans.
Les petits fours, ça n'a rien à voir.
Ils des pizzas en petits
fours. En Italie, la maman fait, avant de commencer les hostilités, elle fait une petite pizza individuelle. Et c'est une tradition italienne. Mais vous êtes complètement abruti aujourd'hui.
Alors que lui est tout en nuance et en tolérance.
Comme d'habitude. Nous avons Eric qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Eric.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Eric, vous mangez quoi au réveillon?
Eh bien, nous, l'année dernière, on a mangé une paella.
Mais ça va, la paella.
Bravo.
La paella, ça va, c'est un vrai plat.
Ah bon?
Mais qui décide si c'est un vrai plat ou pas?
C'est un faux plat.
Allez, c'est le tribunal du goût maintenant, Denis.
Perico, c'est le chef qui décide.
Mais attends, Eric,
je suis totalement d'accord avec
Perico. Faut se méfier des faux plats.
Non, mais je suis complètement d'accord avec Perico. Qui décide, en fait? Nous, l'année dernière, c'est vrai que quand on a vu les prix des dindes ou des magrets ou du foie gras, des tournes d'eau, mais c'est hallucinant. Donc, on s'est fait plaisir. J'ai pris des très bons produits pour faire ma paella.
Voilà.
Effectivement, on a mis une petite note exotique. C'est-à-dire qu'en fait, on a acheté un petit homard canadien qui nous a coûté 7 euros. Mais en fait, moi, je peux vous dire, on était 22 à table et tout le monde était hyper content de ma paella.
Mais attendez, Eric, mais ça, je trouve ça formidable parce que votre paella, déjà, vous avez mis du temps à la faire, évidemment.
Ah,
encore une fois,
oui.
C'est un grand plat. C'est un grand plat familial. C'est comme le couscous. Ah, mais non, le couscous à Noël, ça ne me choque pas du tout.
Ouais,
la pizza, vous allez chercher une pizza chez Domino's ou Pizza Hut. Je suis désolée, moi, à Noël, je trouve que c'est dommage. Voilà, mais évidemment qu'une paella et un grand plat familial, c'est absolument formidable. Vous avez mis du homard dessus, vous avez dû vous régaler.
Non, mais tout à fait. En fait, vous pouvez prendre des très bons produits comme le calamar, du très bon petit poisson, les mettre dessus. Moi, je peux vous dire en tout cas que tout le monde s'est régalé. Quoi.
Mais c'est sûr.
Mais
je trouve que c'est une très bonne idée.
Parce que pour 22, imaginez-vous le prix des tournes d'eau pour 22, ça aurait été hallucinant. Quoi. C'est-à-dire qu'après, pour dessert, on mangeait une tarte aux pommes. Quoi.
Bah, c'est pas mal, moi j'aime bien.
Une
bonne tarte aux pommes, Eric, qui te passerait une petite tarte fine, là. Et vous faites quoi cette année, Eric?
Eh bien, justement, on ne sait pas, parce qu'on attend toujours les 15 derniers jours pour se décider exactement de ce qu'on va manger pour Noël, par rapport aux tarifs des produits qui se trouvent sur le marché, quoi. Et quand on trouve que c'est trop cher, eh bien, on improvise.
Je peux vous faire une suggestion, Eric?
Vous parliez de couscous, mais moi, je me dis que vous m'avez donné envie, du coup.
Mais oui, mais moi aussi.
Je me suis dit, pourquoi pas un couscous?
Mais bien sûr. Et voilà, plat familial.
Je peux vous faire une suggestion?
Allez-y, Perico.
Faites un pot-au-feu avec des bas morceaux de viande qui ne coûtent pas cher, que personne ne cuisine plus. Faites un beau pot-au-feu familial avec des légumes, un morceau de plat de côte. Voilà.
Tout le monde n'aime pas ça.
Je suggère à Eric, s'il veut, pour rester plus...
Mais vous avez raison, Perico.
Et en chauffant avec les légumes.
Je vous adore, Perico. Vous avez toujours le bon sens.
Bon, en tout cas, Eric, on vous souhaite de vous régaler pour ce réveillon.
Ne dites pas trop.
Vous ne comptez pas faire une pizza, Eric, quand même?
Non.
Et voilà.
Non, mais pourquoi pas? Pour l'apéritif, alors?
Oui.
Pour l'apéritif amélioré avant le couscous.
Parce qu'une pizza pour 22, dites donc, il va falloir quand même avoir une grande table.
Oui, mais enfin bon, après, c'est un jour de fête. Hein.
C'est vrai. Bah, merci Eric de nous avoir appelé en tout cas.
Je vous en prie à tous. Allez.
Puis bon réveillon, même si c'est dans
Estelle,
un mois.
Estelle, oui, les yeux dans les yeux, regardez-moi.
Oui, je vous regarde.
Vous avez une déception sentimentale avec un Italien. Un Napolitain. Pour avoir cette haine de la pizza.
Mais j'adore la
pizza. Oh, je pense qu'il y a un petit problème là-dessus.
Perico, j'adore la pizza, j'en ai encore mangé hier soir. J'adore ça. Je suis fan de la pizza, mais pas à Noël. Je veux qu'on garde nos traditions, oui. Je veux qu'à Noël, on mange des plats familiaux.
Celle qui défend la paella et le couscous à Noël, c'est pas très traditionnel non plus.
Mais bien sûr que si, bah, si ça dépend de... Mais si,
c'est un grand plat, et en plus l'avantage, c'est qu'une fois que c'est prêt...
En fait, c'est des plats familiaux, vous voyez, c'est des plats de partage.
Mais c'est pas
traditionnel. Vous voyez ce que je veux dire, la pizza, mais c'est pas possible.
Et puis l'avantage, c'est qu'une fois que c'est servi, pour le coup, même la personne qui a fait la cuisine peut rester à table. C'est l'avantage de ces plats, c'est qu'une fois qu'ils sont prêts, ils sont prêts et on peut participer au repas et pas penser, on a tous connu nos mères et nos grands-mères.
Non, mais c'est un a priori.
Passer le repas de Noël à la cuisine.
Oui, bon.
C'est un a priori féminin. C'est un a priori féminin.
Bon, Christian nous appelle de Toulon. Bonjour Christian.
Bonjour Estelle. Bonjour tout le monde.
Et merci d'être avec nous, Christian, dans Estelle Midi.
En France.
La pizza à Noël, vous en pensez quoi, Christian?
Ben, c'est très bien, moi, je trouve.
Bravo.
C'est très bien. Très nourriture différente. Très, je veux dire, cette tradition, je veux dire, il faut quand même faire plaisir à tout le monde et à chacun. Alors, pourquoi pas une pizza? Moi, je suis très pour aussi la pizza à l'ananas. J'aime beaucoup le sucré salé.
La pizza,
voilà. Je me disais bien, Perico, les gars, ça allait.
Non, mais si l'ananas est sublime, la Martinique, voilà, c'est formidable.
Mon Dieu.
Ah, oui, non. Moi, je suis végétarien, donc une pizza végétarienne, ça m'ira aussi bien. Voilà. Par exemple, il faut se faire plaisir. Voilà ce que je dis. Voilà. Moi, j'ai 62 ans, j'ai vécu nombre de repas de Noël en famille, etc. Donc, le foie gras, etc., je connais, je sais bien. Et donc, depuis le temps, ça ne me manque pas du tout. Donc, vous voyez, on se fait plaisir. Voilà le maître mot, moi, à mon avis, d'un repas ou familial ou seul. Se faire plaisir, voilà, un moment de convivialité ou de... Mais de plaisir.
Avant tout.
De plaisir, de plaisir gustatif, gastronomique, à la rigueur.
Mais, voilà. Mais Christian, vous dites que vous êtes végétarien, ça ressemble à quoi un menu de Noël végétarien? Parce que vous devez vous priver quand même de crustacés, de saumon, de foie gras, c'est pas grand chose. De dinde, de chapon, bon.
Ben de légumes, de fruits, de
une ratatouille. Une bonne ratatouille provençale.
Ouais, exactement, voilà. Une bonne ratatouille avec un riz complet. Etc.
Vous avez droit à un œuf ou non? Vous êtes. Ah ben non. Oui, non, mais vous êtes végétalien ou rien? Vous êtes rien
hein? Végétarien avec un R.
Eh bien, vous avez droit à un œuf avec végétarien, il me semble, non?
Tu vas manger un œuf à Noël.
Une belle omelette.
Bah, merci.
Par exemple, une belle omelette, pommes de terre, oignons, etc. Non,
mais voilà.
Des ébrouilles à la truffe.
Voilà.
Les repas peuvent être très agréables aussi. Il n'y a pas que.
Les Toulonnais ont du bon sens.
Il n'y a pas que de la tristesse chez les végétariens. Voilà.
Non, mais bien sûr. Bah, non,
ou alors, à Toulon, pas pour vous, une belle bouillabaisse. C'est un plat Noël merveilleux. Mais
une bouillabaisse, c'est du poisson. Il est végétarien.
Oui.
Non, je disais pas pour lui. Je dis, mais à Toulon, on pourrait faire une bouillabaisse. C'est le plat local qui est symbole de famille. Ah. De gourmandise.
Ah, tout à fait.
Vous prenez que le bouillon, vous prendrez que le bouillon.
Mais la rouille, voilà. Moi je prends que la rouille dans la bouillabaisse. Bon, enfin bref. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous. Mais ça divise quand même, hein,
ça rassemble, vous voyez. Pour l'instant, j'ai tout le monde avec moi, là.
Voilà. Parce que les gens voient votre état aujourd'hui et ils n'osent pas dire qu'ils sont contre.
Et vous avez vu l'actualité, c'est déprimant.
Mais là, on parle de bouffe, ça va.
Pour une fois, je dis un truc positif, je trouve ça formidable. Et on me rabroue parce que je suis d'accord avec la pizza. On se jette sur moi.
Perico, devant le four, mets-toi, fais des pizzas pour Noël. Moi, je prends une trentinette, on fait des livraisons.
Chiche.
Nous sommes avec Sam, qui nous appelle de Flayosque dans le Var. On a beaucoup d'habitants du Var aujourd'hui. Bonjour Sam.
Bonjour.
C'est joli, Flayosque.
Sam, vous mangez quoi à Noël cette année?
Cette année, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas encore.
D'accord.
Dans la mesure où j'ai mangé du foie gras il y a quelques jours.
Ah, c'est bien ça. Il était bon?
Comment?
Il était bon?
Oui, il était bon. Il n'était pas très... Pas, un peu sec, mais il n'était pas mauvais.
Ah. Ouais, mais il sera meilleur à Noël. Sam, est-ce que vous pourriez manger une pizza à Noël, vous?
Oui, on l'a déjà fait.
D'accord. Et c'était festif?
C'était festif, parce que bon, nous, on a eu l'habitude de manger tout le temps du foie gras.
Mmh.
Oui, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, même de manger des pizzas toute l'année. Mais bon, festif, une pizza au foie gras ou une pizza avec du saumon. On trouve le saumon dans la pizza ou sur le foie gras sur la pizza. Ça m'est déjà arrivé avec mon mari qui adorait les pizzas.
Et vous les faites vous-même, Sam? Ou alors vous les commandez?
Non, là, on l'avait commandé.
D'accord.
Et on peut l'améliorer après.
Ça veut dire quoi, la minorité?
Ben vous la commandez, puis vous rajoutez ce que vous voulez. Si on est libre, c'est pas... Il n'y a pas
une police. C'est sûr que c'est... Non, mais c'est sûr que
c'est... Il n'y a pas une police de la pizza qui va vérifier chez vous si vous gardez la romaine ou la margarita ou la
catarale. Pas ce que j'ai dit. Je dis qu'a priori, c'est pas... Excusez-moi, quand on pense réveillon, on pense pas pizza, même si sa pizza devait être délicieuse et Sam est très content, donc c'est formidable. Mais c'est pas la première idée qui vient à l'esprit.
Vous êtes hors jeu.
Je suis pas hors jeu, je suis traditionnelle.
Dans la mesure où on va pas manger un McDo.
Oui, bah il y a des gens qui doivent manger McDo, ça, je vous rassure. Les jeunes, oui.
Alors un hamburger, vous voulez dire?
Voilà, un hamburger.
Allez chercher chercher un McDo. Là, je m'inscris en faux comme un. Mais faire un hamburger de Noël soi-même, merveilleux, avec un peu de foie gras au milieu, voilà.
Merci Sam, en tout cas. Merci Sam d'avoir été avec nous, puisqu'on parle réveillon de Noël. C'est vrai que la pizza, ça peut faire plaisir aux gamins, évidemment aux jeunes. Perico, est-ce qu'on divise le réveillon? C'est-à-dire on fait les gamins d'un côté, les adultes de l'autre.
Et papy, mamie,
si.
Et papy, mamie, si
la jeune génération dit, oh écoute, le rituel un petit peu lourd de la volaille, du foie gras est lourd, mais on aimerait bien une bonne pizza, ils auront une très belle... Moi, je sais que les miennes ne demanderont pas, mais dans les familles où ça se demanderait, elle a sa place, si elle est faite dans les conditions que je vous l'ai dit.
Si
et bien
moyen.
Sûr que les jeunes, vous savez, on souffre. Moi, j'ai quand même, et même si je suis gourmand et que je suis gastronome, je ne me souviendrai pas Noël quand même. D'abord, on attendait minuit parce qu'on respectait le rituel, on se tapait à cette heure-là. Voilà, j'aimais pas les huîtres, j'aimais pas le saumon. Alors, maintenant, j'ai appris à aimer tout ça. Mais je reconnais que pour certains jeunes enfants, ça peut être pénible. Donc, autant leur donner quelque chose de bien. Et je disais un hamburger merveilleux, il n'y a pas de problème. C'est Noël, c'est la fête d'un enfant.
Moi, je fais raclette pour les enfants quand j'ai du monde à Noël. Et je fais plateau de fruits pour les adultes, comme ça, vous n'avez rien à faire.
Ah bien.
Et les enfants sont ravis de faire de la raclette. Et vous leur mettez des petits aliments un petit peu de Noël, vous voyez.
Pourquoi j'ai rien à faire? Vous voulez que je vienne vous donner un coup de main, je comprenais.
Ça va, j'ai pas besoin de coup de main.
Vous dites rien à faire, vous n'avez rien à faire.
Bah, j'ai rien à faire.
Oui, c'est un exemple, j'ai compris.
J'ai juste à mettre la table. Voilà.
Non, à condition de ne pas faire table à part, parce qu'il n'y a rien de plus triste que les jeunes ou les enfants qui mangent d'un côté et les vieux de l'autre. Quoi. C'est vraiment une fête de la famille, donc c'est important que tout le monde soit là en même temps et qu'on discute
alors
ensemble.
Attention, j'ai vu des fractures familiales graves à cause du menu avec les enfants vegetariens ou véganes. Et là, ce sont des scissions, des fractures familiales. Qu'est-ce qu'on mange à Noël? Ah non, s'il y a de la viande, je ne viens pas. S'il y a ceci, s'il y a du foie gras. Je connais des gens qui se sont engueulés,
si
ils
vous
se levaient
vacciné, je viens
parce
pas.
Qu'il y avait du foie gras.
Ah, c'est pareil.
Ça, c'est... Vous non, avez plein de messages.
Si le foie gras n'a pas été vacciné, je ne viendrai pas.
Rémi.
Des messages très intéressants sur Direct Studio, comme celui de Mylène. Alors, c'est très original. Nous sommes parents de deux ados et nous mangeons pour Noël. Pardon, pizza, gâteau apéro, saucisse cocktail, toast, bref, un apéro dînatoire. C'est la journée pour les enfants et nous, on s'adapte, nous dit-elle.
C'est
un concept.
Ça m'attriste, mais je respecte. Voilà.
C'est différent. Voilà. C'est différent.
les cadeaux sont tirés au tirage au sort, au jeu de fléchettes. Pardon. Rien de traditionnel, mais on s'amuse.
Il n'y en a pas pour tout le monde.
Bah dis donc, si tu chopes le cadeau de la grand-mère et que t'as 15 ans...
Ouais. Et alors, t'as un beau stanache et toi, t'es pas content?
Si tu chopes un fauteuil, vous savez...
Oui, le Montesquieu, tu es content?
Bah tu le revends.
Tu le revends à Péricot.
Et si Huguette, 91 ans, et chope les Playmobil, c'est quand même...
Eh ben, jouera avec son...
Mais c'est... Non, c'est... Oui, c'est une autre tradition, quoi.
On les hippos des RMC, puis voilà.
On va terminer avec...
On ouvre le coffre.
Taisez-vous.
Ah, le coffre.
On va terminer avec Jean-Michel, qui nous appelle de Tarare, dans le Rhône. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Vous réveillonnez comment, Jean-Michel, cette année?
Ah, nous, on fait... c'est tout en famille. C'est le 25, parce qu'on est une famille plutôt recomposée.
Ouais.
Et on prend ça en général chez un traiteur. Mais manger une pizza à Noël, c'est pas le plus grave. Malgré ce que Pellico peut dire, il faut... Je pense que le plus important à Noël, c'est de manger en famille, de se retrouver tous ensemble. Le reste, à la limite, c'est vraiment pas important.
Oui, mais c'est quand même une fête. Voilà, c'est une fois par an Noël, et c'est vrai que traditionnellement, on a l'habitude de bien manger, de mettre les petits plats dans les grands, comme disait Laurent Dandrieu, de bien s'habiller. Ça fait quand même partie aussi de notre tradition française.
On peut manger
moi, ce que j'apprécie, c'est de se retrouver à table, les cousins entre eux. Oui. On est entre 16 et 20, ça, suivant les Noëls, avec les petites amies et compagnie. Et je trouve que c'est le plus important que de voir ce qu'on a dans le plat, parce que de toute façon, on fait pas tellement attention à tout ça. C'est l'important, c'est de se retrouver tous ensemble, parce qu'on sait pas de quoi l'avenir est fait en même
temps. C'est
vrai. Ben, merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir été avec nous. Alors,
vous avez un très bon pull.
Ah, mais je suis assez d'accord, je l'adore. Ah,
c'est il n'est pas le premier à le dire.
C'est celui qui a acheté pour le Black Friday non soldé.
Malgré tout, ça reste une bonne affaire. Du coup, parce qu'il est
j'adore
très
la Bretagne.
Ah ben, mais moi aussi Jean-Michel. Ben, merci d'avoir appelé, en tout cas c'était un plaisir de vous avoir. Jean-Michel, on a fait une petite consultation sur notre compte Twitter. Pizza à Noël, sacrilège ou modernité?
C'est un sacrilège.
Et ben voilà.
Perico, c'est un sacrilège pour 71% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Ça me rassure quand même.
Nos auditeurs ont du bon sens.
Perico, nous sommes les seuls modernes.
Non, mais ça marche
Perico
quand même.
Moderne, vous plaisantez ou quoi?
Je trouve qu'il file un mauvais coton quand
c'est
même.
Moderne républicain.
Je suis assez d'accord. Dans un instant, on aura Johanna Chabas. RMC s'engage pour vous. On a du nouveau dans le dossier de Johan. Johan, il s'est fait usurper son identité. Il a reçu plein d'amendes de la SNCF. La SNCF était intraitable au départ. Mais il y a
du nouveau, c'est qu'il a reçu une nouvelle amende.
Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h27 sur RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure d'accueillir Johanna Chabas. RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, Johanna, on va revenir sur le cas de Johan. Voilà, on en avait beaucoup parlé dans l'émission. Quelqu'un a usurpé son identité à Johan pour prendre le train sans billet.
Oui, des trajets vers Auxerre, Migennes, Avallon. Le vrai Johan, lui, n'y a jamais mis les pieds. Pourtant, depuis plus d'un an, c'est bien lui qui reçoit les amendes. Il en a quand même pour plus de 3000 euros. Ah oui. 180 euros ont même déjà été saisis sur son compte. Souvenez-vous, il témoignait à notre micro il y a un mois.
Un courrier, ben forcément, la petite boule au ventre, un petit haut le cœur. Je me dis que du jour au lendemain, mes colocataires peuvent m'appeler pour me dire, ben voilà, il y a des huissiers à la maison, on est en train de saisir ton lit, ton armoire. C'est une situation qui n'est pas évidente. J'espère surtout que cette histoire sera rapidement réglée.
Suite à notre intervention, la SNCF a accepté de rouvrir son dossier. Ah. Johan a dû envoyer toutes les preuves de sa bonne foi à l'adresse usurpation@sncf.fr.
usurpation@sncf.fr.
Tout à fait. Il y a un mail dédié à ce type
mais
de problème.
Comment il peut prouver qu'il n'est jamais allé à tel ou tel endroit?
En fait, il a envoyé par exemple un bout de son relevé bancaire qui prouve qu'il a pris un café dans un bar à Paris, d'accord, alors que le train l'amende disait qu'il était dans le train vers Auxerre. Donc voilà, plein de preuves comme ça. Et donc en moins d'une semaine, là, par magie, l'entreprise est revenue vers lui. Et bonne nouvelle, elle annule 5 amendes.
Ah bah c'est génial, c'est réglé alors.
Eh bah pas tout à fait. Non, parce que d'abord, tenez-vous bien, la SNCF a porté plainte contre lui, contre le vrai Johan, pour délit de voyage. C'est désormais au procureur de décider.
C'est quoi un délit de voyage?
C'est en gros le fait d'avoir pris le voyage sans titre de transport.
D'accord,
donc, voilà.
Okay.
Donc il va devoir peut-être s'expliquer si le procureur décide ou non d'ouvrir une enquête. Et c'est pas fini, parce qu'il reste 16 contraventions que la SNCF ne peut pas annuler, car elles sont déjà entre les mains de la justice, plus précisément de l'officier du ministère public de Paris. Johan a donc dû refaire son dossier et l'a envoyé au tribunal.
Ça résout une partie du problème, mais il y a quand même quelqu'un qui est dans la nature avec mon identité. Donc c'est vrai que moi, mon rêve serait que la personne en question se fasse arrêter pour vraiment mettre fin à absolument tout le problème.
En fait, c'est insoluble son problème à Johan. C'est-à-dire que comme quelqu'un usurpe son identité, il va continuer à recevoir des amendes à toute sa vie, quoi.
Absolument, c'est le cas. C'est malheureusement le cas. En fait, il faudra qu'il les conteste à chaque fois, car selon la SNCF, je cite, « rien ne prouve que Johan ne se servira pas de cette usurpation d'identité pour réellement voyager sans titre de transport.
Ah, » ce serait vicieux quand même.
Ah, mais c'est comme ça que la SNCF se place et c'est pour ça aussi que Johan va devoir prouver systématiquement son innocence. Mais grâce à nous, il y a quand même une avancée considérable. La SNCF a alerté tout son réseau de contrôleurs. S'il tombe sur un voyageur se présentant comme Johan, alors ils vérifieront son identité et alerteront les autorités. L'entreprise espère ainsi pouvoir arrêter l'usurpateur.
C'est comme un mandat de recherche et wanted. C'est incroyable.
Non, voilà, on espère que...
Mais attendez, il se fait usurper son identité que sur les trajets de
train. Voilà, c'est ça,
bah, pour l'instant, c'est la seule conséquence qu'il a vue. Nous, on lui a conseillé, par exemple, de voir avec la Banque de France s'il n'y a pas des petits problèmes.
On ne devrait pas dire à l'autre de arrêter de prendre.
Pour l'instant, c'est la seule conséquence qu'il voit.
Voilà. Bon, il est très serein, pourtant, vous avez vu quand...
Bah oui,
mais oui, mais il est tout gentil.
Bah oui, exactement. Bah non, mais on espère que ça va quand même régler son problème. Et puis, si ça se trouve, si l'usurpateur regarde Estelle Midi, il va se dire que
arrêtez.
Là, il va falloir qu'il fasse profil bas dans le train. Donc, a priori, de toute façon, c'est réglé. En tout cas, bon, il doit 16 amendes à contester.
Voilà. Mais ça devrait rentrer dans l'ordre, ça.
Exactement.
Ce dont on peut penser que le procureur va classer. Enfin, vu le contexte avec les preuves, le procureur va constater de 20
minutes. Mais d'accord, vous rendez compte, vous croyez qu'il a que ça
à faire. Mais c'est terrible.
D'aller contester chaque amende en expliquant qu'il a bu un café dans le 15e arrondissement et que donc il n'était pas à
démontrer à chaque moment qu'on n'était pas à l'endroit où on prétend qu'on était, c'est pas si simple. Les innocents n'ont jamais d'alibi, comme le veut la formule.
Tous les deux heures, parce que sinon.
Ouais, c'est très compliqué. Merci beaucoup, Johanna Chabas, RMC. Elle s'engage pour vous tous les jours, bien sûr, dans Estelle Midi. Bon week-end, Johanna. Dans un instant, on parle des immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On parlera de la collecte du jour, du test du jour. Le test Miss France. Eh bien, Perico, vous pensez avoir beaucoup de culture, mais je suis sûr que vous ne faites pas 37 sur 37. Vous non plus, Laurent et Pierre-Edouard.
Enfin, j'ambitionne pas de devenir Miss France. Donc,
et alors, on vérifiera
moi,
ça.
Moi, j'ai essayé, ils n'ont pas voulu. Mais
dans un instant. Et puis, on verra également quelles sont les villes qui offrent le meilleur pouvoir d'achat à leurs administrés. A tout de suite dans Estelle Midi sur RMC Story.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC Story avec Rémi Barre et Perico Légas, avec Pierre-Edouard Magnan et Laurent Dandrieux. Et dans cette dernière partie, bien sûr, on vous donne toutes les infos qu'il ne fallait absolument pas rater aujourd'hui. Voici les immanquables.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et on démarre tout de suite, Rémi, avec la collecte insolite du jour.
Oui, à partir d'aujourd'hui et pour une semaine, le ministère de l'Intérieur organise une opération pour permettre aux Français qui détiennent des armes non déclarées de les déposer dans des points de collecte répartis sur tout le territoire. Il ne s'agit évidemment pas
attends,
de rechercher...
Des ampoules.
Voilà, attends, il ne... oui, c'est un peu ça. Il ne s'agit évidemment pas de rechercher les armes détenues par des criminels.
Oui, mais de... ne les déposons pas.
Non, non pas forcément. Mais de cibler monsieur tout le monde qui garde chez lui une ou plusieurs armes reçues en héritage et qui n'a jamais fait l'objet de démarches. On estime le nombre de ces armes détenues illégalement, parce que c'est illégal d'être une arme qui n'est pas déclarée, à environ 6 millions en France. Ah, t'as un vieux fusil de chasse qui appartenait à ton grand-père ?
Non, j'ai un... Mais non, mais c'est à la mort de mon père. J'ai un tout petit pistolet, mais trop mignon, avec une crosse de nacre.
C'est un pistolet de dame.
Oui, normalement, ouais, dame. Normalement
mais, j'ai pas de balle.
Oui, normalement, tu dois le déclarer. S'il est en état de marche, tu dois le déclarer. Oui.
Mais qu'est-ce que j'en sais qu'il est en état de marche ? J'ai jamais essayé de tirer avec.
Mais t'es pas censé te déplacer dans la rue avec pour aller voir à la gendarmerie ce qu'il faut que tu fasses ?
Non, mais il est sur mon bureau.
C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on va laisser les 13e et 14e arrondissements de Marseille, qui sont un arsenal total avec des armes de guerre mortel, cela évidemment on ne touchera pas. Et moi qui avais une petite arme pour me défendre contre ces gens-là, on va me la retirer.
C'est totalement illégal.
Excusez-moi, non mais moi j'ai pas une arme.
C'est pas déclaré, c'est
totalement illégal. Comment tu la déclares et tu la gardes ?
Mais vous avez une arme, Perico ?
Si j'en avais une,
je
voudrais la garder pour me défendre contre les gens qui pourraient m'attaquer, qui eux ne seront pas contraints de la rendre, parce qu'il ne la rendra jamais. Voyez.
En même temps, là, c'est pas vraiment une
comment
contrainte.
Comment l'État va aller chercher les gens ?
Mais là, c'est pas une contrainte. On invite les gens. Et en même temps, il y a plein de gens qui sont.
Mais pourquoi désarmer
du père ou du grand-père
Pourquoi désarmer
quoi en faire.
Exactement.
Moi, j'ai connu des cas. On appelle la gendarmerie. Qui... Ah non, mais surtout, vous venez pas avec. Vous venez pas avec, etc. Finalement, cette journée-là, c'est compliqué de le mettre à la déchetterie. Et donc, finalement, journée-là, c'est l'occasion de se débarrasser.
Il y a un double.
T'arrives à ta déchetterie avec. Bah, Paris, c'est pas ce que c'est qu'une déchetterie, mais je vous emmènerai en province, vous découvrirez.
Enfin, je connais très bien les déchetteries.
Il y a un double objectif à cette initiative faite par le ministère de l'Intérieur, c'est de récupérer ces armes, évidemment, mais pourquoi ? Parce qu'il y a les accidents. Parfois, des gens qui gardent des armes chez eux dont ils n'ont pas besoin, qu'ils ont hérité, etc. Oui. Et bah oui, ça arrive.
Mais malgré tout, c'est...
Qui les jouent avec ces armes.
Bon, enfin, il faut quand même être con pour laisser une arme.
Ah bah oui, mais chaque année,
ça existe.
Oui. Il y a de très nombreux accidents domestiques liés à des armes.
Y compris dans la police.
Et c'est une réalité, c'est factuel. Et il y a aussi les violences.
Je ne rendrai pas mon pistolet.
Les violences conjugales. Avoir une arme à son domicile. Et donc l'initiative du ministère de l'Intérieur, c'est dans ce sens-là. C'est pour éviter. Au moins, il y aura d'armes
après,
chez les gens.
C'est vraiment volontaire.
Voilà.
Mieux faire tourner.
Et puis je pense que en fait, beaucoup de gens ne savent pas que les armes doivent être déclarées. Et du coup, si jamais il y a un cambriolage, et l'arme est dans la nature, enfin, c'est important de savoir effectivement.
Après, les armes en état de marche.
Après, il faut reconnaître que c'est une procédure assez contraignante, hein. C'est-à-dire que moi j'ai un pistolet que j'ai hérité de mon père qui était militaire, donc il faut se déclarer, il faut l'enfermer dans un coffre qui est fixe, il faut s'inscrire dans un club de tir, il faut aller tirer au moins 3 fois par an, il faut renouveler l'autorisation de détention d'armes tous les 3 ans, je crois. C'est administrativement, c'est un peu lourd.
Je me réjouis que ce soit pas simple de posséder une arme.
Dissuasif, c'est dissuasif.
Effectivement, beaucoup de gens, je pense que c'est aussi un des intérêts de cette opération, c'est que beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils sont censés déclarer les armes qu'ils ont héritées.
Absolument.
Ah bah je ne savais pas, oui. Voilà. Je viens de...
Et là, on a un arsenal chez Estelle.
Mais non,
le nombre de fusils de chasse.
C'est un tumouche. C'est un
tumouche. C'est un tout petit pistolet, il n'est même pas... C'est un mini pistolet.
Le fusil de chasse.
Non mais c'est trop mignon.
Gardez vos fusils de chasse.
En fait, c'est une agrafeuse en forme de pistolet.
Mais comment ça, gardez vos fusils de chasse? Si t'es pas chasseur, ça sert à rien.
Ah, c'est un souvenir du père, du grand-père, c'est une tradition française.
Mais il faut le déclarer.
Mais en tout cas, ne les rendez pas. Déclarez-les, gardez vos armes.
Ça peut paraître curieux, mais il y a une dimension. Il peut y avoir une dimension sentimentale dans, dans une arme.
Bien sûr.
C'est un objet. Bon, comme tout.
Là, je sens que vous allez voir que la dimension sentimentale va vous échapper sur le prochain manquable du jour. La réponse du jour.
Emmanuel Macron juge normal que la justice fasse son travail sur l'affaire McKinsey, désormais élargie à ses campagnes électorales de 2017 et de 2022. Deux informations judiciaires sont ouvertes par le parquet national financier pour tenue non conforme de compte de campagne et favoritisme et recel de favoritisme. Interrogé en marge d'un déplacement à Dijon, le chef de l'État précise qu'il ne pense pas être au cœur de ces enquêtes.
Vous le croyez ou pas, Laurent Nantes?
Non, de toute façon, il ne va pas déclarer. C'est anormal que la justice fasse son travail.
Et je suis au cœur de ces enquêtes.
Même, là, dans la catégorie porte ouverte, c'est quand même.
Non, mais il aurait pu se taire. Oui. Il aurait pu une très bonne réponse.
Oui, c'est vrai.
Après, je pense qu'il est totalement insincère et qu'il sait très bien que.
Il sait très bien quoi?
Qu'il y a des problèmes.
Mais quel problème?
Bah, le problème, c'est qu'effectivement, vous faites bosser des gens pour votre campagne et c'est les mêmes à qui vous confiez des gros contrats une fois que vous êtes élu. C'est pas un problème, ça?
Bah, s'il y a eu un appel d'offres.
Ouais. Les appels d'offres, d'abord, ils sont pas toujours transparents.
C'est-à-dire il y a les appels d'offres. Si vous doutez de tout, comment peut-on sortir?
J'ai de solides raisons de douter, en l'occurrence.
Le problème, c'est qu'ils ont travaillé bénévolement pendant la campagne. Et le sujet, c'est est-ce que ce travail bénévole est bien un travail bénévole? Parce que le travail bénévole d'un militant politique, il est encadré. On peut pas faire n'importe quoi, que ce soit d'ailleurs McKinsey ou le plombier du quartier, même si le plombier du. Oui. Il y a par rapport à votre temps de travail, il y a un certain nombre de temps le soir, il y a un certain nombre de temps le week-end. C'est-à-dire que quand on est militant politique, notamment dans une campagne électorale où il y a des comptes de campagne, je ne parle pas si vous collez des affiches pendant l'année, mais dans une campagne électorale, un militant politique, le temps de bénévolat, il est encadré justement pour dire si McKinsey a bossé bénévolement 50 heures la semaine, enfin qu'ils ont envoyé des mecs bosser 50 heures la semaine bénévolement pour la campagne d'Emmanuel Macron, là effectivement, c'est d'abord pas du bénévolat, c'est la dissimulation de dépenses de campagne, et on va commencer à plus que se poser des questions sur le retour sur ascenseur après. Cela dit, il ne se passera rien jusqu'en 2027, quoi qu'il arrive.
Oui, donc,
parce que de toute façon, il y a immunité présidentielle. Après, est-ce qu'il nous la fera façon Chirac ou Sarkozy, qui a été poursuivi une fois sorti de charge? Nous verrons bien.
Un exemple. Vous faites venir chez vous un cuisinier français connu, qui vous fait un repas de Noël merveilleux. Il vous dit, je ne te compte rien, Estelle, je te l'offre.
Ouais.
Et puis ensuite, sur le compte de votre société, vous allez faire 15 repas à 30 000 euros chez lui pendant l'année suivante. Il y aura un petit renvoi d'ascenseur quand même, voilà. Donc ça peut être un petit peu limité.
Oui, mais est-ce qu'un renvoi d'ascenseur est illégal?
Bah, si c'est argent privé contre argent privé, c'est campagne... encore une chose.
Si c'est campagne...
Là, on parle d'argent public, puisque c'est de l'argent de l'État qui a financé McKinsey.
Si c'est une campagne présidentielle...
C'est de l'argent public.
Voilà. Est-ce que ce qu'avait fait François Fillon faisait de lui quelqu'un de disqualifié pour être président de la République?
Ça l'a disqualifié, en tout cas.
D'accord, mais c'était pas lié à la fonction présidentielle. On a considéré que c'était pas très moral. Voilà, donc voilà.
Nous allons passer... Oh là là. Quelle folie. Au test du jour.
En attendant l'élection le samedi 17 décembre prochain de Miss France, évidemment, le fameux quiz de culture générale est déjà disponible. C'est ce questionnaire qui est adressé chaque année aux candidates sur l'actualité, l'histoire, géographie, la logique, l'orthographe. Mention très bien, tiens, pour Miss Normandie, Perrine Prunier, elle a le plus haut score avec la note de 17,5 sur 20. Quand même, elle a fait mieux que toi.
Exactement.
Je crois,
bravo.
Elle a pas fait mieux. Non, j'ai fait 32 sur 37.
Miss Normandie devant Miss Champagne-Ardenne. Solène Scholler et Miss Rhône-Alpes Esther Coutin. Alors, quelques questions.
Oui, mais alors donne pas les simples. Parce que
voilà, non, mais je les ai devant moi. Non, mais
les cinq.
Allez, je commence pour voir un peu l'échelle des questions. Bon. Par une très simple, quel est le nom du nouveau souverain d'Angleterre qui succède à la reine Elisabeth?
Charles III.
Ouais, facile. Bah.
Allez, autre question. Quelle chanteuse mondialement connue a sorti son nouvel album Renaissance en 2022?
Là, j'ai foiré.
Est-ce que c'est Taylor Swift?
Renaissance, c'est Emmanuel Macron.
Beyoncé, Lizzo ou Lady Gaga?
Allez, Beyoncé.
Beyoncé.
Je crois que c'est Beyoncé. Je vérifie. C'est Beyoncé. C'est Beyoncé.
Non, là, j'ai
Normand au carton.
Quelle femme de lettres française a été nommée prix Nobel de littérature en 2022?
Annie Ernaux. Ouais. Encore une Normande.
Ça aussi, j'avais beau.
Oui, en plus, elle est Normande.
Ouais. C'est pas mal.
Ah, mais va sur les trucs
de
mode.
De quel pays venaient les trois dernières Miss Univers?
Ça, j'ai foiré. Ah bah oui,
pas en Brésil.
Afrique du Sud, Venezuela et Mexique. Afrique du Sud, Mexique et Inde. France, Afrique du Sud et Inde. Ou Mexique, Venezuela et Inde.
Perico.
Mexique, Venezuela et Inde.
Non. Afrique du Sud. Venezuela.
Qui c'est ça?
Ah bah oui, et bah,
Candidat pour Miss France.
De quelle star américaine le film Netflix Blonde, sorti le 16 septembre 2022, retrace-t-il la vie?
Marine Monroe.
Ouais, mais c'est trop facile.
Bah oui, tu prends des trucs faciles. Après,
ah, c'est facile.
Pas une quiche.
Ah bah moi,
non, il y a des questions genre qui sont très dures.
Ah bah allons-y.
Quelle est la capitale de...
C'est là où j'ai pas été très bonne.
L'organisation fictive Miss Beauty organise un concours de beauté à Singapour. Le décalage horaire de Singapour est de plus de 7 heures par rapport à la France. Sachant qu'un vol entre Paris et Singapour dure 12h50 et que Miss France part de Paris à 8h20, à quelle heure locale Miss France arrive-t-elle à Singapour?
Ah non, mais j'ai pas passé le bac avec là, Sané pour refaire des points de
l'oral, c'est compliqué, c'était 4h10.
15h20, 14h10, 4h10 ou 21h10?
4h10.
4h10.
Ça, j'ai eu bon, mais c'est pas ça. C'est pas... Ce qui était dur, il y avait des questions de géographie très dures.
Ça, faut un peu. Sur quoi?
Je sais, mais
elles m'ont pas paru dures. Elles m'ont pas paru dures.
8 et 12.
Comment s'appellent les habitants de Châteauroux?
Non, Castelroussin, ça c'est facile. Non, il y en avait des.
Et les Castelroussins.
Moi, j'en vois pas de.
Si, il y avait des trucs avec des capitales.
Ah oui, alors, parmi ces villes, indiquez laquelle est une capitale?
Oui.
Oh, bon, c'est facile, ça. Rio de Janeiro, Sydney, New Delhi ou New York. Quelle est la capitale parmi celles-là?
New Delhi.
Bon, bah, écoutez, Sydney, non, c'est Canberra. Rio de Janeiro, non, c'est Brasilia. Et New York, non, c'est Washington.
Bah, j'avais répondu. Bon, enfin, bon, bref.
Oui, mais tu as un avantage, tu as la beauté par rapport à nous.
Oh là, c'est magnifique.
Rémi,
on est meilleur sur le Friday. On est meilleur sur le Friday, mademoiselle Denis.
Oui, ah bah ça, c'est sûr. Oui, histoire de capitale, là, ça m'a échappé, j'étais fatigué. Bon, bah voilà.
En tout cas, c'est rassurant de savoir.
Prenez soin de votre capitale, c'est déjà important.
Oui, enfin,
très beau en Miss France.
Je, enfin,
il y a quelques critères qui, auxquels, à mon avis, vous échappez.
Je pense qu'il va falloir que je m'achète une perruque.
Moi, 37, je pensais que c'était les mensurations.
Et c'est pour ça que tu jouais pas.
Taisez-vous. Le pouvoir du jeu.
En pleine période d'inflation, Le Parisien révèle quelles sont les villes offrant le meilleur pouvoir d'achat à leurs administrés. Concrètement, les 96 préfectures françaises ont été analysées pour dresser ce classement, ce dernier étant basé à la fois sur le coût du logement, le coût des courses, hein, l'alimentaire, le taux d'imposition, mais également sur le prix du ticket de cinéma ou celui du litre de gazole. Sans grande surprise, les villes moyennes tirent leur épingle du jeu. Niort, Châteauroux, Laval occupent le podium. Dans ce classement, seules deux villes du sud de la France figurent dans le top 10. Hein, Saint-Étienne à la 9e position et Rodez à la 10e. Pour le reste du top, on trouve Nevers, Belfort, Chaumont, Épinal, Saint-Brieuc. La première grande métropole, en tout cas par rapport à ces villes, Nantes, est affichée à la 20e place du classement.
Mais c'est l'immobilier qui doit tout emporter dans la fin. Sur le mode de calcul, je pense que ce qui est logique, l'immobilier pèse lourd.
Les impôts locaux, peut-être aussi.
C'est pas les villes. Alors après, sans faire offense, c'est des villes.
C'est quand même
super,
des trous. C'est quand même des trous. Excusez-moi.
Non, des trous. Vous exagérez. C'est pas ce que j'allais dire.
Pour tout le respect, j'adore ces villes.
C'est pas un trou. Ah non, mais j'adore ces villes. On peut pas dire de mal. Et puis.
On peut pas dire de mal. Mais enfin, c'est moche. Enfin,
c'est un peu. Comment on dit, c'est un peu excentré. Je crois. Ce sont des territoires un peu
excentrés. C'est à 2h15 de Paris. En TGV. Ah bah oui, monsieur, oui, alors là, je connais très bien.
Laval, c'est pas vilain, comme ville.
Enfin, en Bretagne, il y a mieux que Saint-Brieuc, comme, je suis désolé.
Il y a plus joli, c'est sûr, mais c'est plus cher.
Oui,
c'est bien le problème de ce classement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même des villes. Enfin, je veux dire, c'est pas les villes où on se dit, quand on est petit, tiens, j'aimerais trop habiter là-bas.
C'est la ville des assureurs.
Un voyage de noces à la Ricamari, à côté de Saint-Étienne.
Oui, ben on.
Non, à Chaumont.
Mais certains le font.
Quelle chose,
et c'est formidable, mais c'est vrai que.
Chaumont, préfecture.
Mais après, c'est quand même. Et finalement, c'est quand même le triomphe de ces villes dont on ne parlait jamais avant.
Il faut bien que ça ait un avantage d'habiter à Niort.
Les mensurations.
Mais vous n'êtes pas gentil, en fait.
Non. Non.
Mais si, moi, j'aime bien les villes moyennes.
Bah là, oui, bon, bah écoutez, voilà, en tout cas, ce sont les villes, quand vous habitez là-bas, et bah, vous
de beaux territoires français, beaux territoires français, ne nous manquons pas, mais je dis effectivement...
Même si ces centres urbains ne sont pas toujours un esthétisme flambant.
Grâce à qui
la vraie question, dans la campagne
c'est pas le phénomène municipal. Pourquoi est-ce qu'à cet endroit-là, c'était pas moi, c'est pas la mairie qui décide, elle n'a pas le pouvoir. C'est une conjonction économique, sociale, territoriale.
Qui font quoi?
Que c'est un peu moins cher qu'ailleurs.
Bah, c'est moins cher parce que, effectivement, déjà, parce qu'il y a moins d'infrastructures.
Il y a moins d'infrastructures, il y a moins d'emplois, il y a moins d'activités économiques, et donc notamment l'immobilier. Je connais pas les pondérations, mais je pense que le prix de l'immobilier pèse beaucoup dans ce.
En fait, c'est les endroits les moins chers.
Tous les commerces sont fermés.
Les
donc
endroits les moins chers sont probablement ceux qui sont le moins demandés.
Oui, c'est voilà, souvent il y a corrélation.
Je pense que c'est un peu l'offre, la loi de l'offre.
Yvetot, Gournay-en-Bray, c'est pas cher non plus.
C'est excellent, Archer, je t'encourage vivement. Yvetot, magnifique.
Voilà,
Gournay-en-Bray, sans Dieu.
Là où habite Pierre-Edouard Magnan. Nous allons passer tout de suite.
Tricot-Longueville.
à la grève du jour. Ouais, ça va vous faire plaisir, Péric.
La grève du jour, les salariés d'Amazon à travers le monde sont appelés à la grève aujourd'hui, notamment aux États-Unis, en Allemagne, mais aussi en France, à l'occasion du Black Friday, qui constitue l'un des pics d'activité pour le géant du commerce en ligne. Les organisateurs de ce mouvement réclament que le groupe américain rémunère équitablement ses salariés et renonce à l'optimisation fiscale.
Vous la comprenez, cette grève, Péricot ?
D'abord, merci de choisir des sujets qui me font du bien, qui me permettent de me reconstruire, parce que là, tout ça est éprouvant. Et enfin, les salariés d'Amazon, ces esclaves des temps modernes, ces esclaves des temps modernes qui, en plus, qui participent à une annihilation. Et je vous dis le premier, je suis consommateur d'Amazon,
et
parce
bah
que
alors
quelquefois, on n'a pas le choix. Ça ne retire rien aux conditions abominables dans lesquelles ces gens sont employés pour dégager des bénéfices épouvantables à des gens qui font du profit.
Il y a de moins en moins de bénéfices chez Amazon.
C'est normal. À un moment donné, ça ne paye pas. Le crime ne paye pas. Voilà, je suis désolé.
Le crime ne paye pas, mais excusez-moi, vous commandez chez Amazon, donc il y a un moment où vous êtes bipolaire, hein, pardon.
Non, je dénonce un système qui fait qu'à un moment donné, je n'ai plus le choix que de passer par Amazon.
Vous n'avez pas le choix de commander sur Amazon.
Vous allez chercher un livre, vous allez chercher un livre pour votre gamin qui a besoin pour son cours.
Oui, bah vous allez chez le libraire du coin et dans les 3 jours, vous l'avez.
Qui vous dit je l'aurai dans 4 jours ou dans 5 jours ? Ben non, mais c'est fait pour.
C'est pas toujours dans les 3 jours.
Quand votre fils vous dit j'ai un livre à acheter, jamais la maîtresse, elle dit achète ce livre du jour au lendemain. Donc c'est qui vous a menti avant ? Donc ça, c'est un problème d'éducation. Mais ensuite, excusez-moi, vous n'êtes jamais obligé d'acheter un livre sur Amazon parce que votre enfant peut très bien lire ce livre. En plus, ils sont en bas âge, vos enfants. Donc je veux dire, ils peuvent lire attendre 3 jours avant de lire un livre, vous voyez ? Vous n'êtes pas forcé d'acheter sur Amazon.
Mon gamin lit Descartes dans le texte, dans le discours de la méthode à 9 ans, et je l'ai pas en librairie, je suis obligé de passer par Amazon, vous voyez ?
Non, le discours de la méthode pas en librairie, non,
en plaisanterie, non, mais non, ils n'ont pas toujours tout.
Non, mais excusez-moi, il y a des gens qui vivent à 50 km de la librairie la plupart.
Voilà, on a tué le commerce de proximité, on a tué tout. Les libraires sont en train de crever, tout est en train de crever parce que le système fait qu'on tue le commerce de proximité et on remplace par Amazon. Et je me réjouis de savoir qu'enfin, le système se fissure et qu'il y a un sursaut des salariés d'Amazon qui comprennent qu'ils sont esclavagisés par un système qui est en train de mener l'humanité à sa perte.
Et après, c'est très bien
auquel vous contribuez largement.
Mais quand on n'a pas le choix...
Vous avez le choix, vous habitez à Paris, arrêtez de dire n'importe quoi. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, mais vous avez
si,
le choix.
Alors, je trouve 80% de mes besoins dans le commerce de proximité. Il y a 20% de cas, Estelle, où malgré moi, je ne trouve pas et je suis contraint d'aller sur Amazon quand vraiment j'en ai besoin. Ne m'accablez pas, s'il vous plaît,
On est un peu conditionné par l'air du temps et l'air ambiant. Et donc, parfois, on s'imagine
qu'ils vont... Vous allez sur Amazon ?
Bah ça m'arrive, oui. Alors moi, il peut m'arriver d'avoir besoin d'un bouquin de manière extrêmement urgente pour mon travail. Et qu'effectivement, quand le libraire me dit bah non, ce sera dans 10 jours, et qu'en plus, dans 10 jours, il n'est toujours pas arrivé parce qu'il y a eu une erreur, oui, ça peut m'arriver. Mais j'ai, par exemple, avant-hier, je voulais acheter un disque, j'étais assez pressé de l'avoir parce que c'était
Vous achetez encore des disques ?
Oui, j'achète des disques, je suis très attaché à l'objet disque. Et j'étais sur le point de commander sur Amazon pour que ça aille plus vite, et je me suis dit mais non, mais c'est idiot. Tu as un disquaire, tu vas prendre le métro et voilà. Donc j'ai pris sur moi. Donc c'est bien aussi que cette grève soit l'occasion pour les gens de se dire bah non, attends, je sors de mes réflexes et je me responsabilise moi-même.
Enfin, si la grève, ça veut dire que tu vas recevoir tes cartouches d'encre en 26 heures au lieu de 18, ça va pas trop
mal. Non, mais ça attire l'attention sur le fait que les conditions sociales chez Amazon ne sont pas optimales pour
employer. Très bien que les salariés se mobilisent. Pour l'instant, d'ailleurs, il devait y avoir la constitution d'un syndicat à l'interne. Les salariés, pour l'instant, ça n'a pas été fait parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de votes pour à l'époque, mais c'est très bien que ça se fasse. Après, on est perpétuellement en injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'Amazon est un outil technologique qui fonctionne admirablement bien. Ils sont capables de vous livrer en 24 heures à peu près n'importe quoi, n'importe où.
C'est ça.
Et donc, évidemment, de temps en temps, le consommateur qui est en nous, et même quand on s'en défend, on est victime du consommateur que nous sommes, il y a un côté extra. C'est magnifique, vous êtes sur votre machin, vous faites clac, clac, clic.
Le lendemain matin, c'est là.
Et le lendemain matin, vous avez le truc. Et donc, il y a un moment où la facilité, la séduction, la consommation l'emporte sur le citoyen. Et sinon, ça ne marcherait pas. Personne n'explique que le modèle Amazon est formidable.
C'est moins grave.
Je veux dire, tout le monde l'utilise. Caricature exprès. Parce que l'outil marche tellement bien,
Pierre-Edouard.
Après, il devrait être capable de très bien marcher dans des conditions de travail acceptables, dans des conditions de redistribution de richesse acceptables. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, enfin, les salariés d'Amazon, il n'y a que dans les pubs télé que les salariés d'Amazon sont heureux, souriants et tranquilles.
C'est moins grave d'acheter chez Amazon un produit indispensable que de récupérer des guenilles d'occasion sur Friday.
Quoi ?
Je dis que c'est moins grave d'acheter chez Amazon un produit indispensable que de récupérer des guenilles d'occasion sur le Friday.
Non mais de toute façon, je comprends rien à ce qu'il dit. Ce qui me gêne, en fait, c'est un peu votre hypocrisie. Moi, je n'ai pas honte de dire que je commande sur Amazon. Voilà. Mais vous êtes là en disant oui. Alors, c'est vachement bien qu'ils fassent grève, mais je commande quand même. Mais en fait,
il y a des fois où on n'a pas le choix.
Arrêtez.
Mais non, comment ça arrêter ?
C'est pas une question de.
Il y a des fois où on n'a pas le choix.
Il faut arrêter de mettre sur le consommateur plus de responsabilités qu'il ne peut emporter. C'est exactement Exactement, on l'a toujours dit, les footballeurs avec le Qatar, est-ce qu'ils ne devraient pas y aller, machin. On a dit ici d'ailleurs, c'est pas, on n'a pas même sur les footballeurs plus de responsabilité qu'il ne leur en revient. De la même manière, c'est toujours facile de dire c'est la faute du consommateur. Non. Il y a un moment, il y a des règles légales.
Si on consomme plus Amazon, il n'y aurait plus Amazon.
Non, parce que le faire échouer une entreprise par le seul boycott des consommateurs, il y a eu quelques cas qui ont pu fonctionner, plutôt dans les pays anglo-saxons, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on parlait du Qatar, est-ce que la Coupe du Monde est boycottée là? Je crois que c'est vous qui m'avez dit, le premier match de l'équipe de France est un record d'audience. Quand vous interrogez dans la rue, tout le monde dit oh oui, c'est pas bien la Coupe au Qatar, et puis tout le monde regarde.
Vous savez, les gens qui vous disent qu'ils regardent Arte.
Tout le monde regarde Arte, mais personne ne le regarde. Tout le monde dit que c'est bien.
Moi, le bouton 5 de ma télécommande est 9, hein, je ne vous le cache pas.
Le 5, c'est aussi France 5, pas que Arte, c'est 7.
Il y a parfois de très bons films sur Arte.
Quand on a des enfants, France 5...
Les villes qu'on a citées tout à l'heure, beaucoup de gens de ces gens-là n'ont pas le choix que d'aller sur Amazon, c'est tout. Ils n'ont plus sur place de commerce en proximité. Soyez indulgents avec les
excentrés.
Non, pas avec les excentrés. Vous n'êtes pas
excentrés. Je suis indulgents avec les excentrés, mais pas avec vous. C'est quoi ton différent? Vous qui habitez en plein Paris.
Je vous le concède. Je vous le conseille.
Voilà. Estelle voudrait une police des gens qui consomment sur Amazon alors qu'ils ne devraient pas.
Ah ben non, mais je consomme sur Amazon. Non, je voudrais une police de l'hypocrisie. Mmh. Voilà. Et croyez-moi,
il y a du boulot là.
Hypocrisie.
Ah ouais, je veux dire, il y a du boulot. Hein, c'est du plein temps.
Le chômage, rien qu'avec les flics.
Estelle est ultra sécuritaire.
Bon, allez, on va se reposer quand même ce week-end. Hein, ça nous fera du bien.
On est bien besoin. On est bien besoin.
Mais on se retrouve quand même lundi. Midi 15h sur RMC, RMC Story. Bon week-end à tous. Salut.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.